Ouais, c'est une chaise.
Je sais pas, 3, 4, 5.
Bah non, on est à la quai.
Vous êtes combien? Ah oui, bah on est 5. Comment on fait là? Donc on va commencer la dernière discussion du Livrosaurus 2024. Et on va donc reprendre le titre du festival qui est « Casser leurs machines, construire les nôtres ». Mais on va surtout parler de « Construire les nôtres » cette fois-ci. Et donc pour parler de cette question de l'autonomie face aux machines, mais aussi donc de nos dépendances. On a avec nous Claire et Claire de l'atelier paysan, Kams de l'atelier Riso des Tanneries, donc ici, voilà, et Joseph qui est d'un atelier peut-être. Tu as un nom d'atelier? Atelier de chez Joseph, voilà, qui fabrique des outils. Donc voilà, on va pouvoir essayer d'aborder la question de notre rapport aux machines à travers en deux parties. Il y aura une partie sur particulièrement cette question-là de comment on fait pour réduire nos dépendances aux technologies complexes et comment faire pour être dans des rapports un peu plus simples aux machines d'un point de vue comme ça convivial, comme on le disait samedi matin. Et puis on essaiera aussi, enfin on le fera dans une deuxième partie, on l'abordera aussi d'un point de vue du genre et de nos inégalités face aux machines et de comment, enfin quel constat on fait face à cela et quels outils, quelles stratégies on peut mettre en place ce rapport aussi patriarcal aux machines. Alors pour commencer, vu qu'on a donc deux personnes qui ont bien voulu parler de l'atelier paysan, c'était important pour nous au Livrosaurus d'avoir une petite présentation de cette structure, de ses origines, pourquoi à un moment l'atelier paysan est né comment cette structure a évolué aussi dans le temps et ce que vous proposez aujourd'hui comme objectif politique. Et puis j'avais même dit quand on a préparé que si vous voulez aussi raconter peut-être vous l'avez déjà en tête, mais contre quoi vous vous battez et quelques notions d'agro-industrie, ça pourrait être nécessaire aussi.
Trop bien, merci. Peut-être juste pour me présenter et pour dire d'où je parle. Donc moi, je suis Claire et je suis sociétaire de l'atelier paysan et du coup impliquée dans plusieurs groupes de travail. Et voilà. Et puis sinon, moi, je suis plutôt des Hautes-Alpes, quoi. Et du coup, je vais peut-être laisser te présenter l'atelier paysan.
Donc Claire aussi. Donc je suis aussi sociétaire de l'atelier paysan. L'atelier paysan, juste pour vous situer, c'est une coopérative avec un certain nombre de sociétaires et de salariés. Et on est monté en SIC, société coopérative d'intérêt collectif, voilà. Depuis quelques années, mais avant cela, il y avait d'autres structurations. On vous fera un tout petit coup l'histoire, mais pas l'histoire juridique. Je vous épargnerai ça. Et puis juste pour, j'en connais aussi un certain nombre, mais je suis très contente d'être ici. Et merci de l'invitation. Moi aussi, je suis assez impliquée dans le collectif de Malin, donc pas très loin d'ici. Donc c'est pour ça que j'étais sociétaire, de l'atelier paysan local de l'étape. Donc, c'est avec plaisir que je suis venue discuter de l'atelier paysan avec Claire. Et donc, tu veux que je continue sur un tout petit peu donc, pour aller un peu plus loin. L'atelier paysan, donc actuellement, c'est quelque chose comme 200 sociétaires, je crois, avec des paysans, avec des salariés, avec des personnes de la... citoyennes, on va dire, et des partenaires du genre d'autres structures, d'autres fermes, par exemple, etc. Donc ça, c'est sur la composition du sociétariat. Et dans nos activités, alors c'est une société, c'est-à-dire que c'est une société commerciale, on fait de l'activité économique, on a basé notre activité sur notamment l'autoconstruction, l'autoconception de notamment matériel paysan, matériel agricole, et on va vous raconter un peu l'histoire politique cette fois-ci de l'atelier paysan, avec l'idée, petit à petit, et c'est commencé comme ça, on partait donc, à partir du constat sur l'état du système agro-industriel depuis l'industrialisation de l'agriculture. Qui a pris en même temps que l'industrie, il y a eu l'industrialisation au 19e et puis tout le 20e, il y a eu l'industrialisation en France, en tout cas, de l'agriculture. Et il y a eu un certain nombre on revient sur les constats juste après, mais c'était pour dire que face à ça, il y a un certain nombre de paysans qui ont décidé, il y a une quinzaine d'années, de reprendre en main là-dessus leur autonomie, et notamment leur autonomie face à la technologie. C'est plein de choses qui a été question tout ce week-end. Donc on est vraiment dans cette lignée-là, mais effectivement dans le système agricole. Du coup, on discute un peu du système agro-industriel. Je pense que c'est important, ça c'est pareil. Hier, il y a eu une conférence sur l'IA et sur la matérialisation de l'IA par Célia Izoard, et qui est vraiment hyper importante. Et de la même façon, notamment dans le livre « Reprendre la terre aux machines », qui est le manifeste politique de la télé paysan, qui a été écrit par des sociétaires il y a quelques temps, qui a fait qu'on est un certain nombre à les avoir rejoints, notamment par rapport à ce projet politique. Et dans ce livre, notamment, il y a une prise de conscience, et ça, moi, je pense que c'est une des premières choses de la lutte, de qu'est-ce que c'est le système face auquel et dans lequel on est, et qui nous meut, et qui et on rejoint aussi par rapport à tout à l'heure là, moi j'ai beaucoup aimé sur les histoires de normes, parce que ça, c'est des normes qui nous sont imposées, des normes de vie, des normes d'économie, des normes plurielles, et notamment dans le système agro-industriel, c'est des normes sur la production agricole et alimentaire. Grosso modo, quand on regarde actuellement le complexe agro-industriel, on l'a vu à plein de reprises, et c'est de plus en plus pointé du doigt et démontré, et on prend conscience par rapport à ça, contrairement aux mines par exemple, où là on prend conscience depuis très peu de temps, et il y a du travail qui est à faire encore, mais le système agro-industriel, il y a un certain nombre d'éléments et de recherches là-dessus, et qui nous montrent toute qu'est-ce que c'est exactement ? C'est pas seulement quelque chose qui pollue, c'est pas seulement quelque chose qui nous mène droit dans le mur, c'est aussi un système où il y a l'agriculteur qui pourrait paraître simple, enfin tout seul, on voit l'agriculteur tout seul avec son tracteur dans son champ, Par exemple, dans la Beauce, il y a plein de documentaires là-dessus, il faudrait reprendre. Mais en fait, c'est une multitude d'acteurs socio-économiques qui va peser sur cet agriculteur et qui va justement lui imposer un certain nombre de choix et de normes de travail, de normes technologiques, de normes, etc. Enfin, y compris, pourquoi pas, des normes sociales et de catégories sociales, etc. On l'a vu encore au printemps. Et cet hiver, dans le mouvement paysan, enfin agriculteur, parce qu'ils se disent paysans, mais on pourrait discuter. et toutes ces choses qui s'imposent, c'est des grandes boîtes, que c'est la banque qui les fait qui s'endettent dès le début, c'est les semenciers qui leur imposent les semences qui ensuite ne sont pas réutilisables. Je ne vais pas aller dans le côté technique agronomique, mais l'agronomie, c'est une des techniques aussi qui a été développée par rapport à ça, pour servir ce complexe agro-industriel. Il y a, bien sûr, le machinisme agricole, c'est quand même un chiffre d'affaires énorme, y compris, notamment en France, mais alors, on ne parle même pas aux États-Unis, mais les tracteurs, il n'y a pas que les tracteurs, mais tout ce qui est machinisme agricole, ça c'est une vraie industrie et c'est pas du tout de l'artisanat, etc. Et il y a une certaine emprise de l'outil, c'est-à-dire que ce machinisme agricole, il est conçu par des ingénieurs dans des boîtes de construction de machines et ils imposent un certain nombre de normes, par exemple, c'est tout con, mais la taille de la coupe de la moissonneuse-batteuse, c'est une certaine imposition de je fais de la grande culture, etc. Tout est fait pour aller vers cette industrialisation qui fait que à un moment donné, et puis alors en aval, vous avez toute l'industrie agroalimentaire avec la distribution, mais aussi tout ce qui est, je dirais, transformation. Et ça, vous connaissez un certain nombre de choses avec, on connaît Nestlé, etc. Mais il y a Cargill, par exemple, qui est des grosses boîtes capitalistes qui participent notamment, par exemple, à la déforestation, à la mondialisation, etc. Donc ce système agro-industriel, c'est un système capitaliste et qui s'impose, alors bien sûr à toute la chaîne, mais notamment aux paysans et aux agriculteurs. Voilà. Peut-être sur le constat, peut-être un petit constat chiffré, parce que je trouve que, enfin, on trouvait avec Claire, en préparant ça, que c'était intéressant. Le constat, c'est il y a ce système agro-industriel qui est énorme. Autour de nous, et notamment à Malin, on essaie de faire autre chose que cette agriculture-là. De fait, statistiquement, on est rien. le bio, le paysan, la petite structure, la petite ferme, ça produit pas grand-chose actuellement. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein, mais voilà, c'est pas ça qui va nourrir le monde, comme ils nous disent qu'il faut faire. Ça, on pourra y revenir si vous voulez aussi sur cette injonction de nourrir le monde. Il y a une coalition avec les politiques et aussi avec l'aide alimentaire. Enfin, on a un tableau quand même assez, pour le coup, de domination totale par notamment le capital et par toutes ces boîtes qui font du fric avant tout et qui à la fois détruisent la planète, à la fois nous obligent à faire un certain type de travail agricole. Etc. Et donc, pour quelques constats, par exemple, je le dis, je suis partie là, mais faut m'arrêter. en France, actuellement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un actif sur cinq qui travaillait dans l'agriculture. Actuellement, il y a 380 000 actifs, c'est à peu près 1%, je crois. Depuis la seconde moitié du XXe, donc le nombre de tracteurs, par exemple, a été multiplié par 1000. Le nombre de fermes a diminué de 70% et le nombre d'actifs par 84%. Voilà. Il y a actuellement en France, il y a plus de tracteurs que d'agriculteurs. Voilà.
Juste pour une petite précision, ah mais peut-être que tu vas parler des origines. Où en fait, je me demandais aussi si c'était lié à des mouvements sociaux ou à des syndicats agricoles. En fait, qui sont les personnes qui, qui, voilà, sociologiquement, en fait, qui sont les personnes qui ont pensé cette question de l'outil, de la machine. Voilà, est-ce qu'il y avait des liens avec la Confédération paysanne, par exemple?
Et ben pour le coup, c'est parti de trois personnes, deux paysans et un animateur en ADR. Et du coup, ouais, pardon, ADR, c'est une association de développement de l'emploi en milieu agricole et rural. Voilà. Bref, ça permet l'installation de personnes sous une forme d'installation paysanne. Voilà. Et du coup, qui ont voulu justement, enfin, qui ont fait ce constat de dépendance très forte, etc., et qui ont voulu reprendre du pouvoir là-dessus. Et après, petit à petit, se sont entourés de paysans et de paysannes. Et c'est par la suite que la coopérative a été créée, donc la SCIC, avec une volonté aussi de dire que c'est une structure qui est aux mains des paysans et des paysannes, mais il y a aussi une volonté, de par son projet politique, de l'ouvrir à d'autres personnes qui font partie de la société. Et donc c'est pour ça qu'on a le statut société coopérative d'intérêt collectif.
Et que donc vous n'êtes pas paysanne.
Et donc on n'est pas paysanne. Et voilà, petit à petit, ça s'est développé. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à, tu vois, il y a une trentaine de salariés et on est sur trois sites en France. Et donc, par rapport à toutes ces dépendances-là qui ont été décrites par Claire, si on parle par exemple que du machinisme agricole, la dépendance à l'agro-industrie s'est accentuée énormément, notamment parce que dans les formations agricoles, on enseigne très très peu le travail du métal, le travail du bois, de l'électricité, etc. On a aussi des outils qui sont de plus en plus numérisés, alors donc de plus en plus compliqués à réparer. Et également, bah en fait, du fait que les paysans et les paysannes disparaissent, il y en a qui parlent carrément d'ethnocide, hein, paysans, et ben c'est leur savoir et savoir-faire qui disparaissent avec elle et eux. Et donc, alors peut-être qu'on va, enfin, si vous voulez, on pourra en redétailler, mais à l'atelier paysan, il y a tout un processus en fait de mettre du commun sur les outils agricoles et de recherche et développement ascendante. Donc aussi casser cette posture de l'ingénieur qui va nous dire comment il faut faire, etc. Et donc c'est en fait les paysans et les paysannes, ils n'ont pas attendu l'atelier paysan pour innover, pour faire des bidouilles, pour fabriquer, etc. Et donc c'est référencer toute cette bidouille paysanne, accompagner les collectifs de paysans et paysannes à faire un outil qui réponde à leurs besoins, etc. Mettre des plans, les faire mettre des plans et les mettre sous format Creative Commons et donc faire du libre et de l'open source. Et donc c'est s'inspirer aussi de toute cette culture-là, du libre, etc. Et donc mettre les plans, donc vous pouvez aller sur le site de l'atelier paysan. En fait, il y a un millier de technologies paysannes qui sont référencées. Moi, je peux prendre les plans et le faire chez moi. Et c'est des outils qui sont appropriables. Appropriables, c'est dans le sens où pour faire cet outil chez moi, j'ai besoin d'un poste à souder, d'une perceuse à colonne et d'une disqueuse. Et en général, on trouve ça sur toutes les fermes, quoi. J'ai pas besoin de plus. Et donc voilà, aujourd'hui, on est au stade où il y a un millier de technologies paysannes qui sont recensées. Il y a tout un travail aussi autour de... en fait, il n'y a pas de commun sans communauté. Et du coup, comment faire vivre ces communautés? Et donc, voilà, on pourra préciser un peu plus, mais peut-être vous laisser la parole aux autres.
Un millier de technologies paysannes, oui. Ça veut dire un millier d'outils, c'est
d'outils différents, oui.
D'outils différents,
c'est ça.
D'accord. Et donc, pour nous donner quelques exemples d'outils, ce serait quoi, par exemple?
Oh oui, on a plein. Là, tout à l'heure, c'était avec Alexis de la Quincaillerie. On disait, ah, mais moi, j'ai trop envie de faire le four à pain de l'atelier paysan. Ça peut être le cultibut, ça peut être juste. Oui, après, le four à pain, c'est assez technique déjà. Mais ça peut être aussi bien la grelinette.
La grelinette, voilà,
ouais.
D'accord.
Voilà. Et juste, peut-être pour finir là-dessus, tu parlais beaucoup de projets politiques. Notre projet politique, il est clair, c'est se débarrasser du complexe agro-industriel. Voilà.
Ambitieux.
Tout petit, hein.
Bah oui, du coup, je peux peut-être donner la parole à Joseph pour faire un lien et pour essayer que ça dialogue un peu. Donc, Joseph, peut-être, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu fais là avec nous?
C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Merci de m'avoir invité. Je peux que parler de mon expérience personnelle. Je suis passionné par les outils et j'essaye d'en fabriquer en relation avec les paysans et les artisans que je rencontre et qui rencontrent toutes et tous des soucis, des défis, des outils qui n'existent pas dans le commerce, des outils qui sont, dont on ne trouve plus les pièces et qu'il faut en quelque sorte hacker ou adapter. Et donc moi c'est quelque chose qui me passionne et ça a commencé avec un voyage aux États-Unis, un couple d'amis franco-américains qui m'ont invité à venir leur construire une machine à laver les carottes. Et je trouvais l'intitulé super, c'est un beau titre d'aventure. Du coup je me suis dit ok, allons-y. Et ils m'ont payé le billet d'avion. Et en fait au lieu d'arriver c'est dans l'état de Washington, c'est vraiment dans l'ouest des États-Unis. Donc moi j'ai pris un billet pour Montréal et j'ai fait tout un petit périple où je me suis arrêté dans les micro-fermes, les fermes urbaines, les petits projets que je rencontrais un peu par le bouche à oreille. Et j'ai fait comme ça pendant 3 mois un voyage où je réparais les outils cassés en premier lieu. Je faisais de l'ergonomie d'atelier, c'est-à-dire fixer les taux, l'établi, faire des rangements, etc. Ce qui, dans la plupart des fermes, fait défaut. Et parce que les paysans et les paysannes ont autre chose à faire et souvent en période estivale on est à la bourre, on n'a pas le temps de réparer les outils et enfin il y a toujours plein d'autres choses à faire et donc moi je venais faire du woofing bricoleur quoi en gros et ça a super bien marché dans le sens où j'avais sans arrêt des très bons retours. Et puis, j'ai fini par arriver à Walla Walla, dans l'état de Washington, où j'ai fait cette machine à laver les carottes. Et en utilisant la ressource qu'il y avait sur place, en discutant beaucoup avec eux, parce qu'ils ont une ferme qui est en traction animale, ils ont un intérêt aussi pour les énergies plus lentes. Et donc on a un petit peu regardé ce qui existait et puis je leur ai construit cette machine et puis au final il y a tous leurs collègues qui en voulaient une aussi, alors ils voulaient me faire revenir pour faire des machines et puis moi c'était pas tellement l'idée de faire de la série mais ce qui m'anime c'est de faire des prototypes qui sont reproductibles, c'est-à-dire vraiment dans la même démarche qui soit réparable, appropriable, fait avec des techniques d'assemblage qui ne soient pas trop chiadées, qui soient simples. Et donc ça, c'est une partie du boulot, c'est d'arriver à faire un prototype compréhensible. Et donc, parce qu'en fait, c'est assez facile de faire un prototype et de le lâcher en disant débrouillez-vous avec ça, mais réfléchir au futur de la machine, c'est ce qui moi me motive parce que c'est ce qui me fait défaut quand j'utilise un outil qui pète au bout de 2 semaines quoi. Quand je vois un outil qui est fait avec des vis introuvables, on ne trouve pas le tournevis. Pour moi, je trouve ça vraiment, c'est criminel de faire ça. Enfin, je trouve ça vraiment abominable. Ça me met en colère. Et donc, j'ai fini ce tour par une île, l'île de Vancouver, où j'ai rencontré aussi une fermière qui était très inspirante. Notamment dans les groupements en non-mixité qu'elle proposait depuis déjà une trentaine d'années, parce que là-bas il y a quand même commencé une avance à ce niveau-là. En rentrant en France, j'ai continué à le faire par-ci par-là. Et je crois que là, je suis en train de m'installer en milieu rural, dans le Jura. J'ai envie de construire mon atelier, donc je suis en train de retaper une grange. Il y aura une partie qui sera dédiée à ça, la réparation d'outils et la conception de nouveaux outils.
Merci. Peut-être tu peux poser une question encore sur les questions agricoles, puis on passera, on élargira la question du rapport à la machine à la question de l'imprimerie, puisque voilà, on voulait aussi parler de ça, mais peut-être pour continuer sur la question agricole, vous disiez que certains agriculteurs, certaines agricultrices n'ont pas le temps de s'occuper de leurs outils parce que elles sont d'abord dans les champs. Et est-ce que, quels sont les autres obstacles que vous voyez à l'appropriation des outils dans le travail que vous faites et comment faire pour que dans les fermes on arrive à mieux s'approprier les machines.
Du coup là ce que tu poses c'est la question de la dépendance en fait qu'on a aussi et par rapport aux freins c'est un peu les trois principaux mais il y en a d'autres sur ce que je disais tout à l'heure sur c'est des choses qui ne sont plus enseignées, c'est des outils qui sont de plus en plus numérisés et il y a une perte des savoirs et des savoir-faire et comme tu disais aussi en fait on arrive à des comme tu dis Joël, on arrive à des modèles où le modèle agricole tel, en fait, c'est des paysans et des paysannes qui travaillent 70 heures par semaine, rémunérés 70% du SMIC, et en fait, qui n'ont pas cette énergie-là encore. Et voilà, du coup, il y a plein de freins qui sont hyper importants. Et c'est vrai que, du coup, nous, on travaille beaucoup aussi sur cette question de... quand je disais notre projet politique, c'est de sortir du complexe agro-industriel pour aller vers une autonomie paysanne. Et du coup, c'est cette question de comment on va vers une autonomie paysanne, comment on va vers plus d'autonomie vis-à-vis du machinisme agricole. Et en tout cas, cette question-là je pense que c'est important juste de dire qu'est-ce qu'on met derrière cette question d'autonomie. Et pour nous, l'autonomie, c'est pas être indépendant. En fait, c'est pas possible matériellement d'être indépendant à 100%, ça n'existe pas. Et il y a un peu cette définition très, très bourgeoise et libérale de dire que je suis autonome, c'est que je suis 100% indépendant, etc. Et en fait, nous, on dit non. Et en fait, on n'est pas d'accord avec ces définitions-là. Et travailler sur l'autonomie, c'est en fait d'abord faire l'inventaire de toutes nos dépendances. Claire en a cité, en fait, un agriculteur ou une agricultrice aujourd'hui est dépendant de la banque vis-à-vis de son emprunt, est dépendant en fait de son technicien ou sa technicienne agricole qui va lui dire il faut que tu fasses tel ou tel assolement. Elle est dépendante de la coopérative qui va lui dire j'achète ton lait à ce prix-là et tu n'as pas le choix. Elle est de plein de choses en fait. Et donc c'est faire l'inventaire de toutes ces dépendances-là, de l'inventaire au machinisme agricole, etc. Et de dire ok, en fait, lesquelles je choisis. Et je vais être dépendant d'autres personnes, par exemple. Si je veux construire mon four à pain, je vais quand même rester dépendante. Il faut que je trouve le matériel, etc. C'est reprendre en main, faire le choix de ces dépendances-là, et du coup aller plus dans des dépendances qui sont moins asymétriques. Enfin, la dépendance d'un agriculteur ou d'une agricultrice via la coopérative laitière, elle est hyper asymétrique. Par contre, la dépendance d'un agriculteur ou une agricultrice qui est par exemple en lien avec Joseph qui lui fait la réparation des outils, elle est beaucoup moins asymétrique parce que il pourra avoir des échanges, etc. Et donc c'est un peu cet enjeu-là de reprendre la main sur les nécessités matérielles. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'atelier paysan, mais il n'y a pas que nous, loin de là. Mais c'est pas que sur les nécessités matérielles, parce que si on veut vraiment aller vers une autonomie paysanne et une autonomie alimentaire, c'est reprendre aussi la main sur les nécessités sociopolitiques. Et du coup, c'est là où les questions, par exemple, de démocratie sont hyper importantes. Enfin, cette question-là d'autonomie paysanne, c'est pas uniquement une question de chiffres. Par exemple, l'autonomie paysanne, ça ne va pas être que quand on aura installé 1 million de paysans et paysannes, ça sera bon. Quand il y aura 2000 cultibutes de l'atelier paysan, c'est bon, on aura l'autonomie. Non, c'est pas ça, en fait. L'autonomie, c'est vraiment un changement révolutionnaire, un changement radical de la société, et radical notamment, j'ai envie de dire, surtout en termes de démocratie. Et du coup, voilà, c'est aussi un peu comment on fait du lien avec ça, en fait. L'autonomie technique ne va pas sans l'autonomie démocratique, en tout cas. Mais...
Non, enfin, dans la même lignée, et un peu pour reprendre aussi ce que propose Joseph, qui est très très stimulant, moi ça m'intéresse de venir voir. Il y a une question par rapport à la question que tu poses, qui est on repense la division du travail entre les différents, dans une chaîne de production alimentaire, par exemple, il y a effectivement l'agriculture, etc. Il y a la transformation, et à un moment donné, il y a la distribution et on mange, quoi. Et je pense qu'il y a plein de façons de penser ça, mais c'est vrai que pour le côté, en tout cas paysan, en tout cas l'atelier paysan, ce qu'on pense, il y a effectivement la discussion sur l'outil, mais la discussion sur l'outil. À travers la création comme ça de biens communs. Et moi, j'apprécie assez bien ce que tu dis de comment tu penses tes machines pour qu'elles soient appropriables, réutilisables, réparables, etc. C'est des choses aussi qu'on retrouve dans le monde du logiciel libre et qui sont très importants, où il y a cette constitution d'un bien commun. Ce qu'on essaie de faire à l'atelier paysan, c'est d'un bien commun autour de la conception de machines, mais du coup, ça va avec comment est-ce qu'on travaille avec ces machines. Et c'est bien une réflexion sur notre travail et nos travaux et la répartition des différents, entre le paysan, entre la personne qui va transformer, entre la personne qui peut éventuellement faire l'outil et le réparer. Il y a bien ces rapports de dépendance, on va les penser autrement que dans un rapport de dépendance économico-dominant, quoi, notamment capitaliste. Et sortir de là, ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on construit comme rapport au travail et comme division au travail. Et c'est ce qu'on tente. Et c'est aussi l'intérêt, par exemple, qu'à l'atelier paysan, il n'y a pas que des paysans. Parce qu'il y a aussi des gens comme nous, on peut être, qui soit travaillent avec des paysans, soit consomment simplement de l'alimentation et donc ont des choses à dire en tant que citoyens qui bouffent, quoi. Voilà.
Merci. Et vous avez donc une exposition qu'on a exposée dans l'espace des tanneries sur la coursive à l'étage qui s'appelle « L'innovation par l'usage ». Alors c'est intéressant d'utiliser ce mot innovation parce que hier matin on a parlé d'innovation technologique et plutôt d'avoir une relation très en refus plutôt de l'innovation comme un moyen de solutionner le désastre écologique et de se dire plutôt il faut arrêter d'innover. Enfin, en tout cas, ce que je disais, notamment inspiré par d'autres penseurs anti-tech, c'était qu'il fallait arrêter de donner de l'argent à des ingénieurs qui allaient faire des nouvelles machines ou des nouveaux robots. Et j'ai l'impression que du coup vous utilisez ce terme d'une autre manière, ou en tout cas peut-être ça pourrait être intéressant que vous nous disiez qu'est-ce que ça veut dire innover par l'usage. Et d'abord je voulais demander à Joseph si tu penses que du coup ta machine à laver les carottes c'est une innovation.
Alors non, c'est pas une innovation parce que il y a plein de modèles qui existent. Je pense que l'innovation, pour moi, comme je la vois aujourd'hui, les enjeux, c'est de faire des machines sans moteur, au maximum. Et la laveuse de carottes, ils ont fini par mettre un moteur dessus, parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'avec le vélo, c'était pas assez efficace. Je crois que on est toujours pris entre... Quand on cherche à développer des nouveaux outils, on est toujours pris entre s'inspirer de ce qui a été fait, le copier et se dire qu'on vit à une autre époque et comment utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des postes à souder pas chers, des meuleuses qui coûtent pas cher non plus, pour les utiliser au maximum pour faire des outils manuels. Enfin, moi, c'est un peu l'avenir que j'entrevois. C'est-à-dire des outils qui consomment rien et qui utilisent juste des pivots, des leviers et des poignées placées au bon endroit pour faire l'effort, quoi.
Donc tu dirais que c'est des choses qui existaient
Il y a énormément de choses qui ont existé. Qui sont en train d'être oubliés Toutes les machines qu'on voit qui décorent les ronds-points et qui sont peintes avec des couleurs hyper flash, elles étaient faites pour tourner. Et en général, elles étaient faites pour tourner avec une courroie de transmission qui peut se brancher sur un moulin à vent, un moulin à eau, éventuellement un manège avec des vélos ou des ânes ou à la main. Mais en tout cas, elles étaient faites pour durer plus que plusieurs vies. Et toutes ces machines-là, bon, elles ont été balancées à la ferraille. De plus en plus, on les sauve. Moi, quand j'en vois une, j'essaye de la sauver. Je ne peux pas stocker énormément, mais de plus en plus, je vais pouvoir, quoi. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les machines qui ont été créées, il y a une partie de l'avenir.
Et est-ce que vous partagez aussi, ou est-ce que les paysans, paysannes qui viennent travailler avec vous partagent cette idée que les machines, donc peut-être du futur, seraient sans moteur? Comment vous répertoriez plutôt des voilà, vous utilisez donc le mot innovation, et dans quel voilà, en vous disant aussi que c'est finalement des choses qui existaient déjà, mais que ça permet de créer des nouvelles choses. Comment vous utilisez ce terme?
En fait, non, mais du coup, je ne sais pas quelle est la définition exacte d'innovation, parce que je sais que c'est un terme qui a été du coup approprié par toute cette, cette dynamique en général. Elle a des choses à dire, je crois. Même pas trop innovation. Et vraiment, on n'en fait pas un mot étendard de distinction et innovation. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt le processus de création. Et en fait, celles et ceux qui sont à même de créer des objets pour répondre à leurs besoins, bah, c'est les paysans et les paysannes, quoi. Et voilà. Enfin,
on s'en fout un peu, en fait.
Franchement, on s'en fout.
Genre. Ouais, complètement, en fait. Mais
Ouais.
Mais c'était... déjà, il faut dire, à Télé Paysan, il y a quand même un côté assez technophile, quoi. Même si on est critique, ouais. Et tout, et un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aime bien les voir, on aime bien bidouiller, on a des gens qui... Voilà.
Mais il y a certaines techniques. Enfin, tu vois, il n'y a pas de moteur sur les outils.
Et l'innovation, c'est pas forcément... Déjà, la technologie, c'est pas forcément que la technologie motorisée. Ouais. Très concrètement, pour faire une aparté, moi par ailleurs, je travaille aussi dans les sciences humaines et sociales, et je trouve qu'il y a des techniques de sciences humaines et sociales qui sont hyper pointues, quoi. On en parlait par exemple de, c'est horrible, mais la torture psychologique, c'est une technique. Moi, je lutte contre ça. Enfin, je veux dire, du coup, il y a des trucs, et donc du coup, l'innovation, ça dépend. Enfin, c'est notamment par rapport à la nouveauté. Et on a sans doute mis.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce titre. C'est que à mon sens, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des outils qui existent et qui existaient et qui viennent de générations de paysans et paysannes qui les ont utilisés, transformés, mais que c'est la manière dont vous proposez de les utiliser et de se les approprier qui aussi fait nouveauté, puisque dans l'innovation, il y a cette idée de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que là, il y a une proposition politique qui est quand même est de faire avec un outil existant avec des nouvelles manières de faire usage, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on revendique, c'est que la technique, il ne faut pas en avoir peur, on désacralise aussi, et qu'à un moment donné, effectivement, au départ, c'était plutôt des gens qui aimaient ça, etc., et qui étaient bricoleurs, etc., mais l'idée de la communauté Atelier Paysan, c'est de se dire, n'importe qui a envie de s'y mettre, et qui n'aime pas trop, qui a la trouille des outils, parce qu'une meuleuse, c'est quand même pas si simple, souder, c'est pareil, c'est pas simple, c'est accessible à tout le monde, et notamment l'idée, c'est de se dire que l'outil, c'est nous qui le dominons collectivement, et c'est pas l'outil qui va nous dominer, quoi. Or, dans la proposition des machines capitalistes, c'est des ingénieurs qui connaissent rien de ce qu'on fait qui vont nous imposer une certaine idée de notre travail à nous, et du coup c'est une sorte de domination. Et là, nous, c'est ce qu'on veut, c'est d'aller à l'encontre de ça et de se dire la technique, on l'apprivoise, on la reprend. en main collectivement et on en fait quelque chose. Et n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas technophile ou qui n'est pas qui a jamais bricolé de sa vie, mais venez quoi. Et on voit, on construit ensemble.
Et bien, du coup, ça fait une bonne transition aussi pour présenter un petit peu donc l'atelier RISO et la question de apprivoiser les machines et voilà de faire collectivement. Kams, vous voulez bien voilà raconter un peu aussi nous dans nos sphères locales de l'autonomie à Dijon de donner un exemple. Bon, on aurait pu avoir des personnes qui aussi bricolent sur le quartier des Lentillères et puis ça n'a pas été possible, mais voilà, on verra peut-être en partie de questions-réponses. En tout cas, peut-être pour débuter. On voulait parler des origines, alors des origines de l'atelier RISO, en tout cas de nous expliquer pourquoi à un moment il est apparu important d'avoir donc un espace pour imprimer des choses sans avoir recours à un magasin d'impression à qui on paye des photocopies. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment c'était important d'imprimer et donc de se retrouver avec des machines à faire marcher.
Moi, je suis pas aux origines. Alors, je peux parler un peu après, mais je trouve c'est un exemple rigolo, l'outil de la RISO, qui est en gros l'utilisation de la technique du pochoir, mais dans une machine plutôt électronique, et qui donc notre machine, elle doit dater des années 2000. Voilà. Et moi, je suis arrivée aux anciennes tanneries à la fin des années 2000 et on nous a dit il y a cet outil là qui nous sert à faire plein de tracts, plein de flyers, des affiches et puis des brochures et il faudrait s'en occuper. Qui est-ce qui veut s'en occuper? Et c'est un outil qu'on loue. On a un contrat de location pour cette machine. Et moi, je me suis dit je vais faire ça. Peut-être j'aimerais bien faire du graphisme, je vais faire ça. Et déjà, je trouve ça. C'était clairement un outil, c'était pas quelque chose qui a été porté par des gens qui étaient habités par la question du graphisme ou de l'édition, quoi. C'était juste, c'est un outil parmi d'autres, il faudrait un peu s'en occuper. Ok, je lève la main, avec d'autres gens, je vais m'en occuper. Et ce que je trouve rigolo dans cette histoire aussi, c'est que assez vite on s'est dit, là ça devient vraiment chiant, on a un contrat de location avec une boîte, on est hyper dépendant de cette boîte, on est dans un mode de rapport de force permanent, parce que soit on voit les représentants de commerce qui essayent de nous vendre une nouvelle machine plus innovante à chaque fois, alors que nous on n'en a rien à foutre, du coup il faut lui expliquer à chaque fois, soit la machine elle casse et du coup on les appelle et ils doivent passer et on est dépendant de ça, donc on va changer de contrat, on va avoir un contrat de location-achat et là ça va être la propriété privée, ça va être, la collective un peu plus subversive, ça va être la liberté quoi, et du coup on se disait dans quelques années on va être libre avec cette machine, ça va être super, et peu à peu, on commençait un petit peu à l'apprivoiser. C'est ce qui nous a permis de diffuser plein de productions graphiques et politiques de créer des événements comme cela, par exemple. Et du coup, on s'est retrouvés au bout d'un moment comme propriétaire de cette machine. Et sauf que là, on a compris que, avec une machine d'aujourd'hui comme ça, c'est super. T'as plus ces relations de dépendance avec des gens qui mènent une boîte à leur manière dans un système capitaliste, qui essayent de faire leur bise, tout ça. T'es indépendant de ça, mais en fait, la machine est en panne. Là, on est coincé. Voilà.
C'était l'anecdote que Kams allait nous raconter.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'était la petite introduction, parce que il y a vraiment eu un truc de se dire, il faut qu'on s'émancipe de ce rapport avec des techniciens dont on n'est pas pote et qui viennent au coup par coup comme ça. Il faut qu'on s'émancipe de ça. Et je pense dans une vision idéalisée de l'autonomie, de se dire que l'émancipation c'est de devenir propriétaire de la machine, mais sans le penser plus largement. Et donc de se retrouver dans le cas de la panne nous a amené à se dire mais du coup comment on fait avec une machine semi-ancienne dont qui est faite de plein de plastique, de plein de d'électronique,
Oui, peut-être tu peux nous la décrire un peu cette machine, nous dire comment ça fonctionne, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que de la rhizographie, et peut-être nous dire que voilà, dans ce cadre d'un espace autogéré avec un budget assez bas pour imprimer, ben comment, enfin au-delà de cette machine, comment ça se passe pour trouver les encres, trouver le papier, voilà, c'est quoi la micro structure d'une sorte de cet atelier, et aussi peut-être de nous raconter qui sont les personnes qui se sentent compétentes et comment, pour essayer d'aller aussi travailler la question de la compétence et de la transmission. Comment voilà, on a des personnes qui vont se sentir de faire partie d'un groupe et comment ensuite on aborde aussi la question de la transmission parce que des personnes ont un rapport plus facile que d'autres à ces machines.
Ouais, alors déjà juste pour préciser, parce qu'on va beaucoup parler de la rhizographie, donc du rhizographe, mais en fait c'est un atelier où on conçoit des affiches. On les imprime, mais on va aussi les relier, les découper. Donc en fait, on a tout un ensemble de machines. On a aussi des massicots, on a des taqueuses, on a des relieuses. On a utilisé un ordinateur, qui est peut-être le seul ordinateur qui tourne sous Windows des tanneries, sous Windows 8, parce qu'il n'y a pas de driver plus récent que ça qui existe, vu que c'est une vieille machine et qu'on ne pourrait pas l'utiliser avec Linux comme tout ce qu'on fait d'autre pratiquement ici. Et du coup, pour se concentrer vraiment sur la rhizographie, on va dire, pour simplifier, que c'est une machine qui est à mi-chemin entre la sérigraphie, donc une activité très manuelle, pas du tout mécanisée, ou en tout cas qui peut être pas du tout mécanisée, et une photocopieuse, quoi. Et ce qui permet d'obtenir en peu de temps et toute seule aussi, si besoin, beaucoup de tirages en une ou plusieurs couleurs. Et donc c'est ça, un des buts premiers de cet atelier, c'est un peu dans une culture du DIY qui vient du milieu punk et autonome, de faire nous-mêmes nos tracts, nous-mêmes nos affiches de concert. Et du coup, c'est un outil de propagande avant tout. Et je pense que pour plusieurs d'entre nous qui faisons vivre un peu cet atelier, c'est aussi... le but, c'est que ça soit pas que de la propagande, et que si on arrive à faire un peu des trucs jolis et des choses auxquelles on est contente d'avoir accouché, et pas juste des choses qui ont été mises en page sur Word, on en fait encore, mais de moins en moins, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on pourra en parler après, c'est que c'est une machine qui permet aussi de se détacher de l'ordinateur, parce qu'on peut aussi passer exclusivement par le scanner. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect esthétique et aussi d'être contente de nos productions et de sortir un peu de ces standards informatisés qu'on croise partout, quoi. Et c'était quoi les questions ?
Je te demandais si, par exemple, toi, personnellement, tu avais une facilité à t'occuper d'une machine dans la vie. Enfin, est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu avais fait avant que du coup, tu n'avais pas de stress, quoi, vis-à-vis de tous ces boutons, de comment ça allait marcher, le rapport avec l'ordinateur, la machine. Et comment ça se passe pour les camarades qui s'occupent avec toi de cette machine ? Est-ce que vous montez en compétences ensemble ? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de vous former à un moment et là, pour la suite, les nouvelles personnes qui veulent vous rejoindre, quel est aussi leur rapport subjectif à cette machine ? Puis après, il faudra parler de la panne de cette année.
La fameuse panne. Alors déjà, pour parler moi d'où je viens, en fait, moi, j'ai fait les Beaux-Arts. Mais en fait, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas du tout à l'imprimé. Je ne savais même pas ce que c'était de la rhizographie. Je ne faisais pas de sérigraphie non plus. Mais par contre, j'étais assez bricoleur et je bidouillais des machines absurdes, des trucs comme ça. Et j'ai toujours été un peu le type qui va régler le vidéoprojecteur pour le prof et qui règle l'imprimante de l'école aussi. Du coup, j'ai un peu cet attrait au bidouillage et à aider la mise en place d'outils pour les autres aussi, faire des accrochages. Moi, j'ai toujours bien aimé bricoler aussi pour les autres, quoi, pour permettre au projet des autres d'exister. Et du coup, les machines, moi, je les ai découvertes ici. Et après, c'est bon, au début, on a un peu d'appréhension quand on fait ses premières affiches. mais qu'en fait c'est pas si compliqué, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'utiliser une imprimante classique, même si il y a des spécificités de la machine parce qu'elles sont un peu vieilles, parce qu'elles marchent pas à 100%, donc il y a des fois il y a des problèmes, on les détourne et on fait des trucs à la main plutôt que laisser la machine le faire. Il y a des problèmes, on les règle autrement, on a un petit peu de hacking, des choses qu'on a, par exemple les cartouches d'encre. Certaines cartouches d'encre, on les récupère via un autre atelier qui, eux, ont un contrat d'entretien, donc ont leurs cartouches gratuites et qui nous en refilent un peu en soum-soum. Sauf qu'officiellement, c'est des cartouches qui sont pas censées être compatibles avec notre machine, et la machine les refuse parce qu'il y a une puce RFID sur la cartouche. Et en fait, on récupère les puces d'autres cartouches qu'on remplace. En fait, on ment à la machine et on lui fait croire qu'on la nourrit avec une autre encre que celle qu'on lui donne, ce qui fait qu'elle veut bien marcher, quoi. Et du coup, oui, en fait, on a appris à apprivoiser ces machines un peu tout ensemble. Donc, au bout d'un moment, on a dû aussi avoir à les bidouiller. Je sais que j'ai beaucoup fait ça tout seul pendant un bon moment. En fait, en fouillant sur Internet, j'ai réussi à trouver des manuels de techniciens, parce qu'on a les manuels d'utilisateurs. Mais en fait, les manuels techniciens, il y a beaucoup plus d'infos par rapport aux messages d'erreur et tout. Et j'ai aussi trouvé les manuels où il y a toutes les vues en éclaté de la machine avec les références de chaque pièce, ce qui permet des fois de comprendre un peu mieux comment ça marche. Et si besoin, ça nous est arrivé une fois ou deux, de commander des pièces en Chine pour remplacer... pour réparer, quoi. Et aussi un autre avantage qu'on a pour apprendre à les réparer, à les entretenir, c'est qu'en fait des machines, on en a trois qui sont trois fois le même modèle, et donc il y en a une qui marche bien, une qui marche à moitié et une qui marche plus du tout, qui a l'avantage on s'en sert pour pièces, en fait, pour réparer les autres. Et des fois, pour diagnostiquer, on ne sait pas ce qui se passe de mal, du coup on peut ouvrir l'autre, regarder comment c'est censé être. Des fois, ça nous arrive d'échanger des pièces pour savoir arriver à diagnostiquer quelle pièce est en panne. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs machines pareilles, ça permet aussi pas mal la bidouille. En termes de compétences et d'apprentissage et tout, en fait, j'ai beaucoup fait ça seul jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est un peu un défi pour moi en ce moment d'essayer de partager ça et d'attendre que d'autres personnes de l'atelier soient disponibles quand il y a des moments de réparation à faire pour justement faire ça à plusieurs et un peu leur apprendre. Faut dire aussi, je suis content que Mathilde elle soit un peu là. Parce qu'en fait, parmi toutes les personnes qui gravitent autour de l'atelier et qui en prennent soin, je suis le seul mec cis. Et je pense que ça joue peut-être un truc aussi dans le fait que ça fait longtemps que je suis la seule personne qui n'a pas eu peur d'ouvrir la machine et de commencer à la bidouiller. Et du coup, là, je suis plutôt dans un enjeu d'essayer de pousser les copines à faire avec moi et que c'est pas si compliqué. C'est juste un peu... des fois, je suis juste sortir un tournevis. C'est des machines qui sont assez facilement réparables aussi, dans le sens où il n'y a que deux types de vis dans toute la machine, pour rebondir à ce que tu disais, qui fait qu'elles sont, sont plus faciles à appréhender que plein de photocopieuses, même plus récentes, etc. C'est quelque chose qui a 20 ans et qui, du coup, il y a déjà de la microélectronique, mais pas trop. Du coup, il y a un peu un entre-deux. Des fois, on ne peut plus, mais quand même, on peut, quoi. Et juste pour sortir vraiment, avant de parler de la fameuse panne, et sortir de vraiment l'aspect purement entretien et réparation, en fait, ce qui est plutôt chouette, ce qui se passe depuis quelques années dans cet atelier, c'est que, donc comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est une machine, on peut s'en servir sans passer par l'ordinateur. Et en fait, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu complexées justement par les Photoshop, Gimp et compagnie, qui n'apprécient pas de faire de la mise en page sur ordi, parce que, mine de rien, c'est quelque chose de très rigide, surtout quand on ne connaît pas les logiciels. Et ce qui est chouette avec la risographie, c'est qu'on peut passer directement par le scanner. Ce qui fait qu'en fait, on a fait plusieurs fois des ateliers un peu ouverts de création d'affiches où justement on n'est pas du tout passé par l'ordinateur, et il y a plusieurs personnes qui sont décomplexées de ça Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent cet atelier. Et du coup, il y a toute une esthétique aussi de retour au collage et à la peinture et après à sa photocopie qui se redéveloppe. Et toute une nouvelle dynamique qui se met en place depuis quelques années, là, qui est assez chouette à voir, quoi, où maintenant, en ville, on reconnaît directement nos affiches parce que c'est nos couleurs, parce que c'est nos techniques et qu'on arrive à voir... à la fois, en fait, personne d'entre nous est graphiste. Il n'y a pas de volonté d'avoir un style, mais de fait, on commence à s'entre-influencer, etc. Et il se passe quelque chose, quoi.
La panne, peut-être on en parlera plus tard parce que oui. Je voulais qu'on aborde aussi la question des inégalités d'approche face aux machines et vu qu'on n'a pas tant de temps devant nous. Et puis tu as évoqué quand même l'idée d'aller chercher des pièces, d'aller acheter des pièces en Chine, donc ça aborde déjà cette question en tout cas ça a ouvert cette idée que parfois il faut aller acheter du matériel à l'autre bout de la planète pour pouvoir réparer une machine on n'arrive pas à réparer tout avec simplement ce qu'on a dans notre atelier. Mais tu as aussi dit oui, j'aimerais qu'il y ait plus de monde parce que c'est plutôt simple. Et ce qu'on voulait aborder là aussi, c'est ce constat de c'est pas simple pour tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que des personnes ont peur de s'approcher, se disent qu'elles vont pas réussir à utiliser le tournevis, et donc de parler un peu plus de la question du genre, et donc là de croiser aussi les questions agricoles et les questions de rapport à tout type de machines. En tout cas, moi, avec l'éducation genrée que j'ai eue, je pense que c'était très très compliqué pour moi. C'est de mieux en mieux, mais j'ai eu un rapport aux machines très distancié, et je vois bien que c'est toujours un grand challenge d'utiliser un nouvel outil. Et après, je suis fière de moi comme jamais, comme si j'avais fait quelque chose d'incroyable, alors que des hommes cis le font depuis 20 ans et sont pas du tout fiers d'avoir utilisé la même machine. Donc voilà, on voulait aussi faire ce constat et se donner quelques idées pour améliorer les choses, quoi, face à ce constat-là.
Je commence et tu me complètes ? Ok, merci. Oui, du coup, bon, moi, je vais revenir donc plus sur la technique agricole, etc. Et c'est un constat, en tout cas, qu'on a fait à l'atelier paysan, de voir qu'on fait des formations qui sont ouvertes à toutes et tous pour plus d'autonomie, d'émancipation, etc. Et sauf qu'en fait, c'est un fait, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, la conscience et tout, enfin c'est complètement différent. Un peu ce que tu disais, les femmes, elles arrivent là parce que vraiment c'est une autre femme qui les a poussées en disant mais tu verras, ça va être facile, etc. Et du coup ça c'est des questions qu'on se pose beaucoup à l'atelier paysan. Et aussi en fait justement dans notre analyse du système capitaliste qui est en face, en fait on travaille pas mal sur comprendre comment c'est arrivé là, comment on en est arrivé là et comment en fait le capitalisme s'est appuyé sur le patriarcat et le capitalisme a nourri le patriarcat. Enfin voilà tout ça. Et notamment, si je vais faire, enfin très rapidement, en faisant un petit peu d'histoire là, Claire a parlé tout à l'heure du développement du complexe agro-industriel, etc. Et il faut savoir que fin 19e, début 20e, on était encore sur donc un cinquième de la population était paysan-paysanne et c'était des fermes de petite taille en polyculture, élevage, etc. Alors oui, il y avait une division genrée du travail, mais les femmes en fait étaient responsables d'ateliers qui pouvaient rapporter une rémunération pour la ferme, etc. Et en fait, avec le développement de la modernisation, etc., on est entré dans une hyper-spécialisation, et notamment avec des investissements beaucoup plus conséquents, et donc des emprunts, etc., qui ont amené à une logique de spécialisation des productions. Et cette hyper-spécialisation, en fait, elle a rendu indispensable la gestion, par exemple, administrative, comptable, et aussi elle a rendu indispensable la formation. C'est à ce moment-là qu'on a vu les lycées agricoles se développer, etc., avec un certain type de programme de formation. Et du coup, qui ont rendu d'autant plus inaccessibles aux femmes certains ateliers de production. Et sachant que c'est au même moment où on était dans ce discours dominant sociétal de dire, en fait, il faut libérer les femmes du dur travail agricole pour les mettre au profit du travail ménager, en fait. Et donc, petit à petit, en fait, les femmes, elles ont été de moins en moins responsables d'ateliers sur la ferme. mais elles ont toujours autant travaillé à la ferme en fait. Mais ça a été sur des travaux dits annexes, très physiques, avec très peu de reconnaissance, invisibilisés, etc. Bon, il y a le cas classique de la traite en fait. La traite, tu te lèves à 5 heures, après tu la fais le soir, etc. Ça, encore majoritairement, c'est des femmes qui s'occupent de la traite.
Notamment avant que ça soit automatisé avec des machines. Avant qu'il y ait des machines, en fait, la traite, c'était un truc de fille. Et une fois qu'il y a eu le robot de traite et tout, ben là, ça a été plutôt réservé à des spéciales, enfin, au travail masculin. Il y a des trucs comme ça qu'on voit qui sont assez étonnants.
Oui, complètement. On le voit très bien. Où est-ce que les machines ont été développées prioritairement? Bah, prioritairement, c'est des ateliers qui sont plutôt dédiés aux hommes, etc. Et du coup, du fait que les femmes faisaient ces travaux annexes, ça apportait beaucoup moins de visibilité. Enfin, on ne la voit pas, en fait, une femme qui se lève à 5 heures du matin pour faire la traite. Par contre, un homme qui est sur son tracteur et qui fait tous les champs, bah, tout le monde le voit, etc. Donc, il y a une visibilité, il y a une reconnaissance. Voilà, et c'est des choses aussi qu'on voit très bien sur la présence dans les syndicats. Il y avait beaucoup moins de femmes, etc. Donc, encore plus difficile de défendre ses droits. Et encore en parlant de travail invisible, en fait, avec la modernisation, il y a eu une prolétarisation des paysans et des paysannes, une précarisation très importante. Et du coup, avec des fermes beaucoup moins résilientes, et donc il y a eu une sorte de nécessité d'apporter un revenu complémentaire aux ménages agricoles. Et du coup, en général, c'était les femmes. Donc, c'est les femmes majoritairement qui travaillaient à l'extérieur et qui étaient conjointes d'exploitation et qui continuaient, en fait, à travailler gratuitement pour la ferme pour aider leur mari, parce que, voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte général. Je vous parle même pas de la reconnaissance en termes de statut. Enfin, elles ont eu leur congé maternité beaucoup plus tard que n'importe quel salarié. Enfin, c'est un truc dément, quoi. Et si pour revenir au sujet de la technique, en fait, la technique a été un outil fabuleux pour le patriarcat, et notamment parce que du fait d'un accès différencié à la formation technique. Et aux outils, on en parlait tout à l'heure, encore aujourd'hui dans les formations en BTS agroéquipement, mais c'est majoritairement des hommes en fait. Pareil, c'est quelque chose aussi qu'on voyait au sein des familles, quand il y a une transmission des savoir-faire d'un paysan à ses enfants, il n'y a pas les mêmes savoir-faire qui sont transmis si c'est une femme ou si c'est un homme. Voilà, donc c'est-à-dire que déjà tu démarres pas avec les mêmes compétences quand tu commences ta ferme. Il y a aussi, alors là je vais parler de moyenne, il y a aussi un écart de morphologie en fait entre les hommes et les femmes. Et sauf que on est dans cette logique-là de modernisation et d'ultra compétitivité, etc. Elle a valorisé les capacités physiques qui étaient jugées en fait plus productives. Et du coup, en fait, on arrive à donc qu'est-ce qui est une qualité en tant qu'agriculteur ou agricultrice ? Ben, c'est la force physique. Et donc là, en moyenne, les hommes, en fait, ils ont en moyenne encore une fois, ils ont plus de force physique que les femmes. Et du coup, on voit bien dans ces critères de qu'est-ce que c'est un bon agriculteur ou pas. En fait, c'est purement des constructions sociales hyper genré. Et en fait, on en discutait ce matin aussi, ça a été aussi délétère pour les hommes, parce que ce côté très très viriliste du rapport au travail, etc. Il y a un nombre d'agriculteurs hommes qui en fait à 50 ans ils en paraissent 70, ils sont cassés physiquement, etc. Et voilà, du coup on arrive tout ce mouvement là ça arrive, on est sur des fermes où il y a une augmentation de la prise du pouvoir sur les processus de production, d'organisation du travail et tout par les hommes. Quoi.
Est-ce qu'on peut parler du coup de ce que vous faites pour résoudre cette question de c'est les hommes qui savent réparer les outils et pas les femmes? Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'atelier paysan pour que les femmes sachent réparer leur tracteur, leur binette à roues? Est-ce que voilà, il y a des formations? Alors,
historiquement, ça n'a pas été la première question qu'on s'est posée à l'atelier paysan, ça vous l'avez eu. Et notamment, ça a été construit beaucoup par des paysans hommes, l'atelier paysan. mais assez rapidement, l'idée de reprendre le métier de paysan-paysanne, et y compris par des femmes, soit qui étaient issues de ce monde-là, avec de familles agricoles, soit en néo-ruraux. Il y a pas mal de femmes qui se sont installées, qui sont installées seules ou en groupe, etc. Et donc, il y a tout ce mouvement de lutte contre le patriarcat est arrivé à l'atelier paysan comme dans beaucoup d'autres sphères. Et c'est hyper cohérent avec le projet de reprendre la main et l'intelligence et la conception, exactement comme tu racontais sur le labo et enfin l'atelier de repro. Du coup, les femmes ont de plus en plus participé, même de façon minoritaire, mais donc voilà. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un travail, notamment par des salariés qui se sont formés, etc., et qui ont pris en main cette formation éventuellement et ce pas supplémentaire d'accompagnement vers on va oser, on va désacraliser l'outil, on va aussi déviriliser, si vous voulez, enfin je sais pas comment dire, mais peu importe, mais et de dire voilà. Une soudure, c'est pas très compliqué. Enfin, ce que tu disais, voilà. Mais après aussi le dire, ben voilà, la première fois, c'est pas simple. Une disqueuse, ça bouge. Il faut la tenir. Il y a des disqueuses de plusieurs tailles, et donc il y a aussi tout ce côté ergonomique qu'il a fallu aussi ensemble. Paysans, paysannes et salariés et de l'atelier paysan, il a fallu ensemble penser l'ergonomie pour tout le monde, y compris pour les petits gabarits, pour les gens qui sont, voilà, enfin, un certain nombre de choses. C'est pas encore, enfin, c'est des choses qui sont continuellement en progrès et puis qui sont notamment, si on reprend l'idée de se dire la conception, elle est par l'usage, par les usagers et tout le temps en mouvement aussi en fonction du travail et de ce qu'on veut, ben, ça veut dire que il faut être assez nombreux et nombreuses pour dire bah, moi je veux travailler comme ça, comment toi tu fais ça, et etc. Et donc participer, et tout le monde doit participer, ça fait partie du truc, à la conception de nos outils et de cette communauté et du bien commun qu'on essaie de construire par rapport à ça. Et effectivement, il y a du coup, en plus, il y a un certain nombre de choses. Il y a eu des formations plus spécifiquement pour les paysannes ou des choses comme ça. Il y a eu un travail par rapport à ça. Et notamment, il y a des salariés, des formatrices qui sont hyper vigilantes et pas seulement, d'ailleurs, pas seulement les formatrices, les formateurs, à une certaine discussion sur est-ce que tout le monde participe, est-ce que il y a pas quelqu'un dans son coin qui ose pas, et donc d'aller chercher tout le monde tout le temps, quoi.
Et oui, donc de rappeler que effectivement c'est souvent dans les sphères en mixité choisie que c'est les endroits où on arrive à le plus avancer entre personnes concernées, parce que justement on arrive à être comprises comme en tout cas ayant ces craintes-là, et elles sont entendues et respectées, et de pouvoir les exprimer et de pouvoir avancer aussi avec enfin voilà, dans un cadre où on n'est pas dans une posture où on se dit bah c'est la personne qui sait qui va le faire, ou c'est la personne le mec cis qui va le faire parce que il a toujours fait, donc j'ose pas, je préfère me mettre en deuxième. Moi j'ai souvent fait ça dans ma vie. Voilà, je te donne les outils et puis après tu fais le truc. Et du coup, je pense que moi, dans les expériences en tout cas, les ateliers, les formations en mixité choisie, elles permettent de s'approprier souvent beaucoup mieux l'outil, voire la réparation. Moi, j'en suis pas là, mais au moins l'appropriation de l'outil.
En tout cas, il y a effectivement des possibilités de mixité choisie, mais il y a aussi cette idée de l'éducation populaire, qui est pas que à l'atelier paysan, mais de dire on apprend ensemble en faisant ensemble. Et à un moment donné, effectivement, l'idée, c'est pas forcément celui qui sait faire qui va faire, c'est celui qui apprend aussi, qui va faire pour apprendre, et mais aussi pour faire. Il y a cette idée de vraiment, mais hyper fort, et enfin, on rejoint sur d'autres trucs, mais de l'éducation populaire qui est vraiment, c'est le savoir, il n'est pas construit de façon descendante et transmissive où tu, je vais te dire, je vais te montrer, puis tu vas savoir. Non, il faut tu fais et on fait ensemble, quoi. Et c'est vraiment, enfin, c'est aussi un principe très fort à tous les paysans auquel on tient.
Et bah merci, oui. Et du coup, il faut qu'on ait un petit peu le temps des questions, mais je voulais quand même te poser une dernière question sur la question de la formation et de l'éducation au rapport aux machines. C'est que on discutait ce midi du fait que à l'école, en tout cas dans les filières générales, on nous tient très loin des outils et du manuel. Voilà, il y a quelques heures par-ci par-là, et les enfants très tardivement en fait ont un rapport à la réparation ou à la construction. En tout cas, voilà, c'est de moins en moins valorisé. Et on parlait de toi, tu faisais des ateliers avec des enfants, et ce serait chouette que tu en dises deux mots de comment tu fais ça, comment tu proposes ça, les appréhensions des adultes, etc.
Ouais, en fait, moi je suis artiste aussi, je viens d'une école d'art aussi, et à ce titre, je suis aussi souvent sollicité pour faire des ateliers en tant qu'intervenant. Donc dans différents milieux, pas forcément que scolaires d'ailleurs, mais auprès de publics qui vont de 5 ans à jeunes adultes, voire adultes qui n'ont jamais vraiment bricolé. Et le grand plaisir que j'ai, c'est de présenter les outils de base et de les faire manipuler. Sans forcément tout leur dire, mais simplement en leur disant déjà en premier qu'est-ce qui est dangereux avec cet outil et où est-ce qu'on peut se faire mal. Et quand ils comprennent l'endroit où on se fait mal, ils vont se pincer un petit peu une fois, puis après ils vont plus se pincer et puis ils vont s'éclater à faire plein de trucs. Et donc moi j'adore faire la présentation des outils, et j'essaye d'être hyper vigilant à pas parler que aux garçons, parce que les garçons ils sont au taquet d'emblée. Et les filles sont toujours plus sur la réserve parce qu'elles voient aussi les garçons au taquet. Et du coup, il y a ce truc-là de... ça m'est jamais arrivé d'avoir que des filles. C'est peut-être pendant un atelier bijoux, où on faisait des bijoux, il n'y avait que des filles. Bon. Mais dans l'atelier bijoux, on a quand même fait de la soudure, on a quand même coupé du métal avec des petites scies. C'est quand même des outils qui peuvent être dangereux. Mais j'ai vraiment observé ça, que les petits garçons inhibent les petites filles. Et donc moi, j'essaie de faire super gaffe à cette inégalité qui existe dès très jeune. On va pas épiloguer sur cet état de fait, mais ça existe. Donc j'essaie de faire super, super gaffe à ça, et de pas trop dramatiser l'aspect dangereux des machines, mais au contraire de dire... je vais mettre mes mains avec toi sur la machine, on va le faire ensemble une première fois, et puis après tu le feras, je vais regarder, et puis après je le ferai sans, après tu le feras sans que je regarde. Et ça se passe toujours bien, j'ai jamais eu d'accident. Enfin, en tout cas, pas en ma présence, peut-être après à la maison, je sais pas, mais voilà. Quand je suis plus là. Mais du coup, j'ai fait des ateliers avec des petites filles, on a fait des machines, on a fait plein de choses, et en fait, il suffit d'un moment dans leur cursus scolaire où je ne suis pas tout seul à faire ça, j'ai plein de copines aussi qui font ce genre d'atelier, et on a vraiment conscience de la chance qu'on a d'être à cet endroit-là, d'intervenant artistique, parce que dans l'éducation nationale, en fait, ça disparaît, l'usage des outils, on n'a plus le droit d'utiliser des ciseaux. Et quand on arrive en tant qu'intervenant, on arrive avec notre caisse à outils et on nous laisse un peu tranquille parce que c'est une fois dans l'année, quoi. Et surtout, comme on en parlait tout à l'heure, c'est important d'aller dans les réseaux d'éducation nationale dans lesquels on va trouver un public qui n'est pas forcément... des fils et filles de bricoleurs, des gens qui vont être d'autant plus touchés par l'appréhension des outils de base, quoi.
Merci. Peut-être que oui, là on peut peut-être vous donner la parole si vous avez envie de nous raconter la première fois que vous avez utilisé un outil compliqué, ou si vous voulez poser une question ou voilà une remarque par rapport à ce qui a été dit.
Merci à tous pour cette intervention et cet échange. Je trouvais très, très riche. Ça dit beaucoup de choses sur l'état de nos sociétés. J'avais pris le temps ce matin de regarder votre exposition que je trouvais... Bon, j'ai pas pu tout lire parce que c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Mais j'avais été justement interpellé par tout ce travail de réadaptation des outils à des morphologies qui ne correspondent pas aux normes d'hommes cisgenres, d'une certaine taille, qui ont une certaine corpulence. Et c'est vrai qu'on n'y réfléchit pas, enfin, parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, on a souvent cette image stéréotypée du fermier sur son tracteur, enfin, de l'agriculteur sur son tracteur et sur ce travail de force-là. Et ça me fait penser aussi au travail d'une copine qui me disait par rapport au travail en cuisine qu'on pourrait faire les choses beaucoup plus de façon fluide. Mais comme il y a ce mythe de la force physique, bah, on est toujours dans des options d'organisation qui sont dans ce sens-là. Donc merci beaucoup, je trouve ça permet aussi de repenser un peu tous ces modèles-là. Et pour ce que tu disais, Claire, sur l'impact de l'industrialisation, sur le rôle des femmes dans l'aspect productif du travail domestique, ça a été vrai dans plein d'autres aspects de la société. Et c'est là que les idéologies sexistes d'essentialisation des genres se sont développées, aussi sont mises en place pour justifier de garder les femmes à la maison et de leur couper l'accès aux espaces publics et aux champs politiques. Donc c'est vraiment une dynamique très globale et idéologique qui s'est mise en place là. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres envies d'intervention? Non, c'est la fin de la journée aussi.
Ouais. Bon, ça sent super bon là-bas.
Oui, moi je voulais revenir sur la question de la dépendance. J'ai été confronté assez tard aux outils et à des gens qui utilisent régulièrement des outils, notamment des paysans et paysannes de collectifs. Et en fait, j'ai vu que pour beaucoup, c'était pour plein de gens, c'est une contrainte en fait de devoir utiliser un outil. Et là, il faut l'utiliser. Et il y a un désintérêt, voire même un dégoût de s'intéresser à ces questions-là. Et je pense que dans une vision un peu appliquée de la technocritique, il y a cette idée de, en identifiant les technologies qui sont appropriables et pas appropriables, par exemple, et en identifiant les dépendances que les gens ont vis-à-vis de ces outils dans leur exercice personnel ou leur rapport personnel, et aussi dans leur rapport sensible, parce qu'il y a pour moi il y a des vraies relations passionnelles qui s'inscrivent en fait entre les outils et les personnes qui les utilisent, souvent dans la détresse. Je pense par exemple beaucoup à l'automobile, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur cet angle là et je me suis dit que souvent, enfin autour de moi, j'ai remarqué que c'est les gens qui critiquaient les technologies qui au final se retrouvaient intéressés pour essayer de soutenir les gens là-dedans. Et du coup, je voudrais encourager les gens dans cette voie-là et se dire que peut-être même, si en tout cas, il y a des choses qui nous paraissent compliquées et des choses qui nous paraissent très désagréables à faire, il y a peut-être des gens autour de nous qui aimeraient faire ces choses-là ou qui aiment déjà faire ces choses-là. Et qu'en fait... De même que l'agriculture aujourd'hui, en fait, industrielle notamment, elle est trop compliquée et qu'en fait, les agriculteurs et agricultrices ne peuvent pas tout maîtriser. Il y a un enjeu peut-être à s'intéresser au sujet technique pour des gens qui font d'autres activités, c'est-à-dire d'être un peu comme ça, d'aider dans des formes de réappropriation collective les outils et peut-être envisager la réparation des outils comme des pratiques de soins, parce que justement, dégager la charge mentale des gens qui utilisent les outils. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser autour de ça et de s'intéresser aux machines qu'on déteste le plus. Enfin, c'est souvent ce qu'on fait, mais voilà, je pense que c'est intéressant.
En tout cas, ce que ça me fait penser, et je trouve que c'est super important, c'est que dans la conception d'outils, Quand on se réapproprie les outils, ce qu'on fait là, ce qui est important, c'est que on sort de critères uniquement de productivité ou d'efficacité ou d'efficience, et on va notamment sur aussi des critères de qu'est-ce que j'aime comme, enfin, comment je veux travailler et quel outil j'ai besoin pour faire ça. Et c'est pas forcément le bon outil, c'est pas forcément le plus efficace ou le plus rentable ou le plus tout ce que tu veux. C'est celui qui te plaît, que tu trouves beau, qui te fait faire des gestes beaux, etc. Et quelle que soit l'activité, mais en tout cas, enfin moi, ça me fait penser à ça. Et je trouve que de changer les critères de qualité d'outils, c'est hyper important. Et ça en fait partie, quoi.
C'est plus pour l'atelier paysan, en faisant un petit peu un lien entre éducatif aussi. Comment est-ce que l'atelier paysan se fait connaître à des publics qui sont peut-être non avertis du fait que ça... Non, pas dans un sens non payant, mais plutôt... non paysan. Non, je pensais plutôt des personnes du monde paysan qui ne sont pas forcément dans un réseau alternatif ou quoi, et qui pourraient avoir besoin de ce soutien-là, mais qui n'en connaissent pas forcément l'existence. Donc comment est-ce que l'atelier paysan se fait un peu connaître et ou va chercher un peu à toucher plein de publics différents? Et est-ce qu'il y a déjà eu, par hasard, des exemples où, par exemple, un lycée agricole ou un établissement d'enseignement agricole aurait pu solliciter l'atelier paysan?
Oui. derrière ce que tu disais, il y avait une hypothèse que je confirme, que en fait la majorité des personnes qui viennent se former à l'atelier paysan viennent plutôt de ces milieux-là, de la gauche paysanne, néo-ruraux, etc. Donc oui, effectivement, la majorité c'est ça. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là, parce que c'est pas notre projet politique. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi des agriculteurs ou des agricultrices qui viennent, qui sont conventionnels et qui veulent un peu se réapproprier et gagner plus en autonomie justement sur leur ferme. Donc ça, il y en a plusieurs. Là, on est dans une dynamique aujourd'hui. L'atelier paysan, après plusieurs années de construction, est dans une dynamique de ce que, en tout cas, on appelle SMH. Et donc, c'est-à-dire que des collectifs sur des territoires. Alors, quand je dis collectif, ça peut être aussi bien une ferme collective qu'une association, que 10 structures différentes, qu'un artisan, etc. Qui dit, mais en fait, moi, je suis trop motivée pour accueillir un essaim de l'atelier paysan. Et donc là, nous, on est plus là pour en fait l'accompagner à faire, par exemple, des formations telles qu'on peut le faire, etc. L'idée, c'est pas de reproduire à l'identique, en fait, de faire des petits ateliers paysans un peu partout. On n'est pas du tout dans cette stratégie-là. Et en fait, c'est aussi une stratégie qui se veut d'être plus territorialisée et non plus au plus proche en fait des besoins des personnes. Et c'est aussi comme ça en fait on arrivera à toucher d'autres publics, parce que moi, quand je travaillais sur une ferme là, pendant 2 ans avant, au début t'es principalement dans les réseaux de gauche paysanne, mais en fait ton voisin ou ta voisine elle est pas là, mais c'est pas pour autant que tu peux pas discuter avec elle, etc. Et il y a plusieurs agriculteurs et agricultrices qui sont venus justement comme ça par le bouche à oreille. Et donc ça, c'est, il y a une stratégie qui est comme ça, revenir sur les territoires et les endroits de sociabilisation. Et il y a aussi, on travaille pas mal avec les lycées agricoles, et pareil, ça c'est en construction. C'est en développement, mais c'est des enseignants et des enseignantes en lycée agricole. Peu importe leur discipline, que ce soit en comptabilité, en agronomie, etc. En agroéquipement, oui, quand même, surtout, mais pas que, en fait, pas que agroéquipement. Et en fait, qui ont été formés par des formateurs et des formatrices de l'atelier paysan en autonomie paysanne, pour pouvoir ensuite former à nouveau d'autres publics, qui seront de fait des publics différents. Je suis un peu longue.
Non, mais merci. Moi, je voulais redire 2-3 choses avant de conclure, qu'on aurait aussi pu avoir avec nous des personnes qui font, par exemple, qui se réapproprient l'outil informatique. Enfin, l'idée, c'était d'essayer de montrer que dans ce festival voulait travailler sur la question de notre rapport à la technique, il y a plein de domaines techniques et il s'est trouvé que là, on a parlé d'agriculture, d'imprimerie, mais il y a d'autres domaines sur lesquels on pourrait
et se dire que finalement être anti-tech, c'est aussi connaître nos machines. Et donc je trouvais chouette de te rejoindre sur cette idée de prendre soin des outils comme d'un geste politique finalement très anti-tech, même si on a aussi eu une culture où beaucoup d'anti-tech se parce qu'ils n'aimaient pas les outils, et tu le disais Mathilde aussi, dans nos propres pratiques, on s'en tenait aussi loin et on n'essayait pas de les comprendre, et que ça apparaît pas comme forcément la meilleure manière donc de faire avec, de faire différemment, de les rebidouiller pour que voilà, ils soient appropriables, qu'ils soient transmissibles. Donc voilà, en tout cas, l'idée du soin aux outils et aussi de continuer à déployer des formations dès le plus jeune âge et des formations de tout type pour tout type de public, de s'entraider entre nous, ça paraît aussi une perspective très concrète, mais finalement assez révolutionnaire. Voilà, donc merci d'être venu en tout cas pour parler de tout ça. Et on finit avec le concert qui va bientôt commencer, qui s'installe dans le Barnum où il y avait les stands.
Il faut ramener vos chaises là-bas, du coup, c'était ça la consigne de départ. Ah oui, il est encore dispo.
Quoi ?
Quoi ?
Et pas parler du rapport de force. Oui.